Interview.
1 interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview qui se déroule à l'Armelier, au 19 rue de l'Armellerie, et je suis en compagnie de Romain Hugo.
Bonjour.
Bonjour Romain. Donc ici, c'est ton atelier, du moins la reprise de cet atelier qui était créé initialement par, par Jean-Paul.
Et sa compagne Laurence, ils ont créé l'atelier il y a un peu plus de 10 ans. Et puis ils ont aménagé l'atelier, ils sont installés là. Et là, depuis septembre, j'ai pris la suite de Laurence et Jean-Paul. Et puis j'ai été formé par Jean-Paul en partie. Et puis je suis allé faire une école de tournage que lui-même avait fait dans les Gorges du Verdon, qui s'appelle l'école Escoulaine. Et donc voilà.
Pour toi, ça a été le coup de foudre, cet atelier ?
Eh bien, moi je suis arrivé dans le Diwa juste avant les premiers confinements du Covid. J'habite à 2 rues d'ici et puis je tournais déjà depuis 2 ans, mais en autodidacte, tout seul dans mon coin en Belgique. Et en m'installant là, je me suis rendu compte qu'il y avait l'atelier de Jean-Paul à côté. J'y passais devant tous les jours. Et donc, de fil en aiguille, on a sympathisé, il a commencé à me former et puis on a commencé à travailler ensemble et puis ainsi de suite. On en arrivait là.
Pour toi, qu'est-ce que ça représente, cette passion pour le bois et le tournage ?
Alors moi je suis très manuel, je viens de du cirque, de la jonglerie, je faisais du diabolo principalement, donc c'est un objet qui en plastique qui tourne avec des baguettes et en métal pour le... Et donc il y a un rapport très fort à la rotation, et le tournage sur bois c'est mettre en rotation des bouts de bois et de les travailler avec des outils en métal pour donner des formes. Et donc il y a un côté très dans la pratique qui est très proche de la jonglerie, enfin je trouve plein de parallèles. Et puis ça peut être très créatif aussi, ça peut être très usuel comme objet qu'on produit, mais aussi très créatif. Et donc voilà, et puis là, l'atelier boutique, il y a un côté où je travaille devant les gens, un peu comme pour une représentation de cirque. Et j'aime bien, ça me plaît bien.
Cet atelier, donc, il y a deux machines hein, qui tournent. Comment on appelle ça d'ailleurs ?
Alors là, il y a 2 tours à bois, ils sont assez grands, il en existe des plus petits. Après là, c'est pour travailler tout le temps dessus. J'en ai 2 parce que je prends souvent des stagiaires à la journée, des gens qui viennent apprendre le tournage ou se perfectionner, donc je peux prendre 2 stagiaires à la fois. Et puis il y avait l'ancienne machine de Jean-Paul, la mienne, et donc voilà, c'est les tours à bois. Et puis derrière, il y a toute une rangée de gouges, qui sont les outils qui nous permettent de sculpter le bois en fait.
Alors il y en a de toute taille, la plus longue, je vois, elle est au moins de 60 cm de long, au moins.
Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait on va avoir le bout de bois en rotation sur le tour, on repose l'outil sur un repose-outil qui s'appelle le porte-outil en métal, qui va encaisser en fait la force que reçoit l'outil, et parfois en fait le contact là où on coupe et là où l'outil est en repos sur le porte-outil, il y a une marge assez grande, enfin une longueur assez grande, et au plus le manche est long, au plus on va avoir d'effet levier pour compenser cette force. Et donc on a des outils très très longs, qu'on a des creusages qui sont très loin du porte-outil. Mais en gros, il y a 6 types d'outils différents, et puis là, il y a toute une série de déclinaisons de taille, d'épaisseur et de longueur.
Il y a cette activité, je ne sais pas si tu t'es un peu penché sur l'histoire de cet artisanat, on peut le situer à quelle époque, de l'Antiquité ?
Ouais, c'est ça, de ce que je me souviens, l'Antiquité, ils travaillaient déjà avec des tours à perche. Donc en fait, il y a une perche au-dessus du tour, une corde qui descend, qui passe par le pot de bois, et une pédale. Et en actionnant la pédale, on fait faire un aller-retour en fait, au bout de bois. Et en fait, le tournage servait à faire des gamelles en bois, des petites saladiers, c'était quelque chose de très usuel. Après, c'est devenu, avec les tours électriques ou les tours qui étaient actionnés par l'énergie de l'eau, on arrivait à faire tout ce qui était balustre, pied de table, tous ces éléments de meubles, en fait, le tournage sur bois, et jusqu'à récemment, c'était beaucoup ça. Et avec l'arrivée des tours électroniques, en fait, contrôlées par des machines, tout ça a décliné, et en fait, le métier de tourneur a failli disparaître, et la génération au-dessus de moi de tourneur a un peu repris tout ce savoir-faire technique qui est ancien, et l'a adapté avec d'autres techniques sur des côtés un peu plus créatifs. Et donc l'évolution du tournage, c'est allé comme ça. Et là, dans ma pratique, je fais du tournage très traditionnel avec des éléments de meubles à reproduire à l'ancienne et des choses très créatives et assez modernes, je pense. Donc voilà.
Voilà, donc il y a de la restauration. L'autre jour, je passais chez toi, tu étais en train de constituer 4 éléments d'une bibliothèque.
C'est ça.
Et il y a des personnes qui te demandent peut-être de réparer certains mobiliers en quelque sorte.
Ouais, en fait, il y a trois aspects à mon travail dans l'atelier boutique. Il y a l'aspect boutique avec les pièces qui sont en vente. Puis après, j'ai tout un aspect formation avec les stagiaires que je prends et un aspect très important qui est la commande. Et là, c'est vraiment des pièces sur mesure en fonction de la demande des gens. Alors, ça peut être de la restauration de pièces anciennes, de la reproduction, mais aussi des manches d'outils, des outils qui servent en couture, en filage de la laine, des objets que j'ai pas en boutique. Enfin, le champ des possibles en tournage au bois est assez vaste. Tant que c'est rond, on ne fait pas des choses carrées. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et donc, les gens viennent me trouver. Et quand c'est possible, en fait, je travaille sur commande. Donc, voilà.
Il y a donc l'aspect réparation. Tous les bois sont bons à tourner.
Alors, en théorie, on peut tout tourner. Mais dans ce qu'on pratique en tournage, on va surtout tourner du feuillu, pas trop les résineux, parce qu'ils sont pas assez denses, sauf exception. Mais du coup, c'est plutôt du feuillu. Et là, dans le travail qu'on fait à l'atelier, je travaille que du bois local, donc qui vient de la vallée de la Drôme, maximum 10-15 km autour. Donc il y a des essences que je ne vais pas avoir dans les matériaux que je travaille. Je travaille pas beaucoup d'oliviers, parce qu'on en a très peu ici. Par contre, je vais travailler beaucoup de noyers. C'est un bois que j'adore travailler ici, du buis, de l'if, en fonction de ce que je vais faire comme pièce. Pour tout ce qui est alimentaire, les bols, les assiettes, les saladiers, on a une liste d'essences qu'on peut utiliser en fait, puis une liste gouvernementale, donc on s'y tient. Mais pour tout ce qui est décoratif, là, ça peut être des racines, des bois abîmés. Il y a moyen de mettre en valeur tous les bouts de bois en fait, en tournage. Donc, voilà.
Ce bois, tu vas au-devant de propriétaires ou alors est-ce qu'il existe un commerce aussi local qui puisse te fournir en bois?
Alors, j'ai plusieurs approvisionnements en bois. Je travaille avec des scieries quand j'ai besoin de plateaux séchés. Donc, je travaille avec une scierie qui est de l'autre côté du Vercors. Mais c'est plutôt rare. Je travaille plutôt avec soit des agriculteurs, soit des élagueurs du coin qui me ramènent des bouts de bois. Ou alors des particuliers qui rentrent dans la boutique, qui me disent j'ai un arbre qui est tombé, j'ai tel bois. Et en fonction du type d'essence, de la quantité, on peut trouver des arrangements. Souvent, les tourneurs, quand on nous offre du bois, en fait, on va faire une pièce en échange. Ça arrive régulièrement. Donc, c'est un peu les provisionnement que j'ai.
Et puis il faut un temps de séchage aussi à ce bois pour pouvoir être travaillé. On peut estimer combien de périodes en amplitude.
Alors en fait, on peut travailler du bois vert, donc il y a encore plein de sève. En tournage, ça je fais beaucoup. On apprend à travailler le bois vert pour qu'il déforme et qu'il sèche plus rapidement. Mais si on veut laisser sécher un rondin, on va attendre 1 an par centimètre de rayon. Pour le séchage, donc une bûche de 10 cm, on va attendre 10 ans. Et donc, nous, on a des astuces pour tourner des saladiers verts, par exemple, sans le cœur, pour éviter la fente. Et puis, ce saladier va sécher et déformer. Après, en scierie, ils ont la possibilité d'étuver le bois et donc de le sécher artificiellement, donc sans laisser le temps. Donc voilà, mais la théorie veut que c'est 1 cm de diamètre pour 1 an de séchage. Mais nous, on travaille du bois vert, du bois sec, ça dépend des projets et des objets qu'on veut faire.
Ça nécessite un lieu de stockage également.
Oui, bah forcément, le bois il est brut, donc il y a différentes étapes avant qu'il arrive sur le tour. Moi derrière, j'ai une arrière-boutique et du stockage pour après déligner le bois à la tronçonneuse, à la scie à ruban. C'est les deux outils que j'utilise principalement avant de préparer mes ébauches que je vais mettre au tour après. Et puis à partir de là, tout le travail de précision se fait au tour. Mais on va déligner le bois en amont derrière.
Cette activité de tournage, toi-même disais, la pratiquer déjà en Belgique. Il y a toujours une culture du tournage de bois à travers les lieux que tu as visités ou même en général.
Alors, en France, dans le coin et certaines régions de France, beaucoup, parce que tout l'artisanat du bois est encore assez présent. Par contre, quand j'ai commencé en Belgique, j'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des tourneurs. Il y en a un peu plus en Flandre, et maintenant que j'ai un peu avancé dans mon parcours, je sais qu'il y a d'autres tourneurs, mais c'était très peu développé. Déjà, il y a beaucoup moins d'arbres, il reste plus beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de champs à perte de vue, mais très peu d'arbres. Et donc, toutes les professions liées au bois sont moins présentes. Alors que ici, dans le coin, la personne Jean-François Escoulen, qui a créé l'école dans les Gorges du Verdon, qui est une des écoles les plus complètes qu'on peut faire en tournage, lui, il était à Puy-Saint-Martin, donc il vient de cette région, il a formé beaucoup de tourneurs, donc en vallée de Drôme, on est énormément de tourneurs et en France en règle générale il y a tout un réseau de tourneurs qui ont des ateliers boutiques ou des ateliers qui forment des gens et plein d'amateurs aussi, des gens qui dont le loisir c'est de tourner le bois un peu le week-end dans leur garage. Et donc ouais, il y a tout un savoir-faire en France en tout cas qui se passe de génération en génération. Et dans le coin il y a tout un savoir-faire du bois qui est présent et qui il y a plein d'autres artisans du bois et c'est assez riche.
Alors, les pièces que tu travailles issues de ce bois, comment se sélectionne à tes yeux le bois qui va convenir à telle commande? Est-ce qu'il y a des règles à respecter?
Oui, on va beaucoup observer le bois en amont. Donc, par exemple, un bois qui est tout fissuré, si on le met en rotation sur le tour, il y a des chances qu'il éclate et qu'il parte dans toutes les parties de l'atelier. Donc, il y a une première sélection qui se fait sur la sécurité par rapport à la façon dont je vais pouvoir le mettre en rotation. Il y a plusieurs techniques, mais voilà. Après, il y a ce que je vais vouloir faire comme objet. Donc, si c'est alimentaire, je vais choisir certaines essences ou pas. Et puis, par exemple, moi, j'aime bien travailler sur les sphères et j'ai plein de pièces qui se basent sur les sphères, des mobiles, un peu de l'espace, ça représente des planètes, des billes. Ok, et là c'est plus l'aspect esthétique. Une fois que j'ai passé les critères de choix du bois alimentaire, non alimentaire, dangereux ou pas à mettre sur le tour, après c'est trouver le bon endroit du bois pour mettre en valeur le veinage et la couleur. Et puis, ou bien si je veux le sculpter, le texturer, le peindre, ça va être c'est en fonction de l'objet que je vais vouloir faire en finale, en fait, au final.
Et puis le bois, une fois mis sur le tour à bois, est-ce qu'il y a une vitesse spécifique pour certains bois?
Oui, bien sûr. En fait, on va commencer sur les petites pièces. En fait, on a une certaine vitesse de marge. En fait, le problème, c'est qu'on a un bout de bois qui est assez gros, qui n'est pas équilibré. En fait, le tour va pouvoir se mettre en vibration. Donc, on va toujours tourner en dessous de la vibration. Et puis, au plus on arrive à mettre le bout de bois rond, au plus on va pouvoir augmenter la vitesse. C'est pas forcément la vitesse de rotation qui va faire qu'on a une belle coupe ou pas du bois. C'est vraiment la façon dont on va présenter l'outil et le manipuler. On peut tourner très lentement et couper très bien. Et puis, non, ça va être plus une histoire de vitesse. Et d'équilibre du bois. On peut travailler en excentrique, c'est-à-dire qu'on va changer l'axe du bout de bois à plusieurs endroits, à plusieurs moments en fait du tournage. Et ça donne des formes complètement tarabiscotées. Et c'est un domaine du tournage qui est très chouette à faire. Donc voilà.
Oui, voilà, la pièce de bois brute présente des irrégularités. Et donc, en tournant, il y a cette rencontre avec le ciseau. Il y a beaucoup de prudence à agir à ce moment-là, hein.
Il y a beaucoup de prudence dans l'apprentissage. En fait, il y a toute une série de règles et de règles de sécurité, en fait. Et après, il y a toute l'acquisition des réflexes, en fait, du tourneur, de comment on présente l'outil, de comment il faut être concentré. Bon, c'est une machine rotative quand même, donc on peut se faire mal. Donc voilà, ça reste quelque chose qu'il faut maîtriser, il faut savoir ce qu'on fait. Et donc souvent, moi, j'ai des gens qui viennent en formation à la journée pour apprendre le tour, les règles de base, comment présenter les outils. Et après, ils ont, au bout d'une journée, les bases pour après expérimenter chez eux, se former, et puis revenir de temps en temps. Mais au moins, si on se lance dans le tournage, on a toujours au moins une journée d'initiation avec un tourneur sur la sécurité un peu. Donc voilà.
Il y a une certaine liberté aussi hein, dans ce tournage. Parfois, il y a peut-être un l'empirisme qui prend le dessus.
L'empirisme, tu veux dire la
De se
narration?
laisser aller et puis de.
Ouais. Bah en fait, après, une fois qu'on a la technique, on peut s'amuser à agencer les différentes techniques pour après les faire disparaître, et créer des pièces qui racontent des choses. Moi, c'est un propos que j'aime beaucoup dans les pièces que je fais, dans le côté artisanat d'art. C'est les petites pièces où j'aime bien les petits robots, la science-fiction, où on va avoir un petit mobile avec une fusée qui tourne autour d'une planète, un petit robot qui vit quelque chose. Et là, on arrive à utiliser la technique pour faire des formes évocatrices, en fait. Et là, ça devient très drôle. Moi, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Là, dans l'atelier, il y a les trembleurs qui sont des pièces de bois très fines, d'une longueur d'un mètre, qu'on met dans des tubes en verre parce que c'est très fragile. Et l'exercice de base, c'est de faire des formes, des moulures qui s'enchaînent. Ça vient des compagnons tourneurs. Moi, je me suis amusé à aller faire ces formes évocatrices, des planètes, des soucoupes volantes, des choses comme ça, et garder cet exercice très traditionnel et très technique, mais que l'objet fini raconte quelque chose. Et donc là, ouais, moi je trouve c'est transcender un peu la technique pour aller faire des objets qui sont évocateurs de messages.
Voilà, donc ce tube-là en vitrine, c'est justement ce que tu parlais, c'est.
Le trembleur, ouais. Et le trembleur, ça vient des compagnons de tourneurs avant de se former en tournage via le compagnonnage, comme les menuisiers, les ébénistes. Ça n'existe plus maintenant. Il reste les écoles dont j'évoquais le nom tout à l'heure. Mais c'est ce que les compagnons appelaient un objet de maîtrise. Donc en fait, c'est une seule pièce de bois, c'est 2 jours de boulot, et puis il faut vraiment maîtriser son outil, se maîtriser soi-même. La moindre erreur, il y a tout qui casse et on reprend. Donc voilà, c'est un chouette exercice qu'on continue à faire en école, que moi je continue à faire dans mon atelier aussi. Et puis ouais, ça vient des compagnons tourneurs.
Parce que c'est tellement fin qu'on se demande comment c'est possible avec ces tours à bois.
Avec le tour à bois et les gauches. Bon, on a une série d'astuces en haut de sur le plafond, à l'envers, il y a ce qu'on appelle des lunettes à fil, qui sont en fait des choses qu'on va rajouter au fur et à mesure qu'on affine le bois. On va commencer de la partie la plus éloignée du moteur, et dès qu'on affine suffisamment, qu'on affine une partie, on va jamais revenir dessus, et on la soutient avec de la corde, en fait, et ces systèmes de lunettes. Une fois qu'on affine le trembleur, on a plein de lunettes à fil enchaînées les unes à côté des autres autour du bout de bois, et puis de là, on va rentrer le bout de bois dans le tube en verre directement sur le tour. Et ça va permettre de sortir sans le casser, parce qu'il ne s'auto-soutient pas lui-même. Et voilà, encore une fois, c'est une histoire de technique, et ça, c'est des savoir-faire qui sont anciens. C'est des objets qui se faisaient beaucoup au 15e, 16e pour les cabinets de curiosité. Et ce savoir-faire, il reste présent, on nous l'a transmis, et on continue à le transmettre, nous, les tourneurs actuels, quoi. Donc voilà.
Donc là, c'est un des aspects de ce que tu proposes, hein, en plus de la réparation de certains mobiliers, de la création de figurines, de robots, et puis, comme tu disais, ce trembleur. Ça ouvre quand même un grand champ de possibilités. Est-ce que, en général, tu contentes la demande des clients ?
En tout cas, la difficulté, c'est d'avoir en boutique les pièces qu'on a envie de qui intéressent les gens. Du coup, nous, en tant que tourneur, on doit faire une sélection sur la production qu'on a au quotidien. Moi, je sais que j'ai beaucoup de toupies, j'ai beaucoup de... La vaisselle, elle part très vite, donc j'en ai rarement beaucoup, mais j'essaie d'en produire régulièrement. Puis après, des boîtes, des bill bokeh. Moi, j'aime bien les choses ludiques un peu, c'est mon passé de jongleur, donc les bill bokeh, les toupies. Et là, j'essaie d'avoir un panel qui commence à 3 € et qui va un peu plus cher pour les pièces qui demandent un peu plus de boulot. Mais l'idée, c'est de pas s'adresser qu'à un public de gens aisés, et de vraiment pouvoir contenter tout le monde. Et via les commandes aussi, on peut créer des pièces qui sont très précises et qui correspondent exactement à la demande des gens. Donc voilà. Bonjour.
Et alors, tous ces outils, toutes ces gouges qui sont au mur, ce sont des outils que tu as achetés ou alors que tu as pu peut-être récupérer ?
Alors en fait, il y a une partie de mon outillage à moi. Avant de récupérer l'atelier ici, moi j'ai un chez moi à 2-3 rues de là, j'avais mon atelier là-bas. Donc Jean-Paul avait lui son outillage, et là maintenant j'ai fusionné les deux ateliers en reprenant celui-ci. Donc il y a une partie de l'outillage qui est le mien, celui que j'ai repris à Jean-Paul. Et puis du coup voilà, ça fait beaucoup d'outils, mais ça me permet de prendre deux stagiaires et d'être outillé pour avoir deux stagiaires plus moi en démonstration. Donc c'est aussi pour ça, voilà.
Il y a le moment où aussi il faut l'affûter de nouveau. Ouais. Ça, c'est une activité qui prend du temps et que tu formes aussi.
Ouais, je forme à l'affûtage. En fait, en tournage, on ne fonctionne pas exactement de la même façon qu'un ébéniste qui va travailler surtout à la force des mains, en tout cas quand il s'agit de gouges. Nous, on a la rotation du tour, donc l'affûtage n'est pas le même. On a un touré derrière, on affûte régulièrement. Si on fait un saladier, en fonction du bois, il y a des bois qui désaffûtent plus, on va affûter 5, 6, 7 fois sur un saladier. Et donc on a des tourés, on apprend à le faire rapidement et à gagner du temps là-dessus, mais on affûte nous-mêmes nos outils et puis voilà. Ouais, l'affûtage en fait est important et il va pas être aussi précis que les outils à main, mais il est important. Et en fait, l'angle d'affûtage, la façon dont l'outil va être travaillé, la pointe de l'outil est importante en fonction de ce qu'on va vouloir faire comme coupe avec.
Le sens de rotation est toujours le même, hein.
On peut inverser le sens de rotation, mais c'est pour certaines parties, plutôt en ponçage ou en finition. Mais oui, il va toujours tourner vers soi et vers l'outil, en fait. Ouais.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5,
101.7,
FM.
Au-delà de l'aspect du tour à bois, dans la finition, il y a d'autres outils qui sont utilisés.
Oui, en fait, là, il y a vraiment une partie d'atelier qui est consacrée vraiment qu'au tournage, avec les outils de tournage, les accessoires pour percer sur le tour, pour les différentes façons de prendre le bois. Et l'autre partie derrière moi, là, c'est vraiment une partie où c'est plus de la texture. On a du pyrograveur, on a des outils rotatifs qui vont permettre de sculpter, de texturer, de peindre. Voilà, là, c'est toute une partie où c'est des choses qu'on va faire après le tournage et qui vont permettre de sculpter, de donner une texture, d'amener de la couleur, des choses comme ça. C'est une grosse partie de ce que je fais aussi sur mes pièces. Voilà, c'est d'amener une plus-value à ce qui sort du tour, quoi.
Est-ce que t'es arrivé d'avoir de grosses difficultés sur une commande?
Surtout au début. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, et puis c'était plutôt des commandes de proches. Mais avec le temps, et puis surtout la formation, entre ce que j'ai appris ici à la boutique avec Jean-Paul et puis l'école, sur les 6 mois d'école, on a une quinzaine de formateurs avec chaque semaine un thème différent. Donc ça brasse vraiment tous les aspects différents du tournage. Et par ce biais-là, j'ai un peu la technique pour répondre à plein de commandes différentes. Donc maintenant, je sais un peu plus à quoi m'attendre et comment le faire surtout. Et du coup, oui, il y a des commandes où la coupe est plus compliquée ou alors c'est très répétitif, mais on apprend toujours et c'est ça qui m'intéresse aussi.
Il y a beaucoup d'objets liés à la science-fiction. Mmh. Ça, c'est aussi une de tes passions, la science-fiction?
Ouais, je suis un gros lecteur de science-fiction, de romans. Et puis après, tout ce qui est dérivé, un peu les séries, les films, les BD, les comics, mais surtout de romans. Et c'est un imaginaire qui m'inspire depuis très longtemps, mais qui est très dur à mettre sur scène dans le cirque, dans le spectacle vivant. C'est très limité, en fait. Ça demande beaucoup de boulot pour arriver à monter un spectacle là autour. Je travaille un peu la marionnette, donc je m'y suis attelé un petit peu, mais... Là, je peux faire des choses très concrètes en très peu de temps avec quelques objets. Et donc là, je m'éclate à... Je fais des petites boîtes soucoupes volantes, j'ai des petits robots tire-lire, des choses comme ça. Enfin, c'est un imaginaire qui me plaît bien, qui touche un peu tout le monde pour différentes raisons. Et du coup, moi, je m'amuse bien là, dans cet imaginaire-là sans avoir vraiment d'avis arrêté sur les vaisseaux spatiaux. J'ai pas mal de gens qui me demandent si je crois aux extraterrestres. J'ai pas d'avis, non, pas vraiment, mais c'est un imaginaire qui me plaît bien et puis qui est très vaste, et donc dans lequel c'est sans limite, en fait. Enfin, voilà.
Donc ce sont des soucoupes hein, qu'on peut voir, ouais, entre autres.
Il y a des fusées, il y a des petits robots, il y a d'autres choses qui vont arriver, là, maintenant que je suis un peu installé. Il y a notamment des pièces pour un concours sur le thème du cirque, où j'étais invité à participer, depuis un concours de pièces tournées. Et j'avais fait une pièce avec un petit robot fil de ferris dans une croissant de lune. Il y a une planète avec un chapiteau, il y a un dresseur de ballons, de chiens en ballon gonflable, il y a un petit robot qui fait du diabolo. Et voilà, ça m'éclatait bien de développer un peu cet imaginaire du cirque au travers de la science-fiction. Et puis j'ai pris du public avec cette pièce-là, donc j'étais assez fier. Et puis forcément, je viens du cirque, donc de voir un concours de pièces tournées sur le thème du cirque, c'était une occasion pour moi d'aller me lâcher un petit peu, quoi. Donc voilà, là, le robot qui fait du diabolo, il fait du 12 diabolo. Il faut savoir qu'un diaboliste normal avec une paire de bras, il arrive à faire 6 diabolos. Donc là, lui, il a 4 bras, donc 12 diabolos, ça se tenait, quoi. Et donc là, je me suis amusé à reproduire un peu vraiment le mouvement du diabolo. C'est très juste par rapport à la réalité du diabolo. Enfin, c'est assez facile, en fait, de passer d'un imaginaire, d'une pièce imaginée à une pièce réalisée. Certaines demandent plus de travail que d'autres, mais avec la bonne technique, en fait, c'est assez vaste, le champ des possibles. C'est tellement vaste que c'est bien de se restreindre un peu. Du coup, moi, la science-fiction, c'est un domaine qui m'inspire bien, donc voilà.
Je voyais aussi ces trembleurs, il y en a différents modèles. Tu peux m'expliquer le nom de ce... Pourquoi ce nom trembleur?
Alors en fait, si je te montre le petit, juste en le déplaçant, en le posant au sol, c'est tellement fin, en fait, qu'il va trembler. Et quand il y a un séisme ou quand on est dans une maison près d'un endroit où il y a des gros camions qui passent, juste la vibration fait que ça tremble dans le verre. Et du coup, je pense que le nom vient de là, en fait, simplement du fait qu'il soit tellement peu rigide que ça tremble.
Tu t'es renseigné sur cette origine de cet objet ?
Je l'ai appris à l'école. Je l'avais déjà appris en échangeant avec Jean-Paul. Et puis à l'école, ça s'est affiné. On nous a donné plus d'infos sur les techniques. Il y a toute une partie du tournage qui s'appelle le tournage ornemental. Et en fait, où il y a toute une discipline, tout un savoir-faire sur des formes très complexes à réaliser autour, très géométriques. Il y a vraiment des spécialistes de cet aspect-là du tournage. Et les trembleurs en font partie. Il y a des gens très, très doués dans ce domaine-là qui s'amusent. En fait, chaque tourneur, au bout d'un moment, se spécialise un peu dans une partie du tournage. Parce que c'est tellement vaste que si on veut creuser, on spécialise un peu. Enfin, en tout cas, on tourne souvent autour du même genre de pièces. Et puis là, dans mon cas, je suis encore assez vaste pour garder une certaine pluralité dans ce que je propose. Mais il y a des tourneurs qui se spécialisent, par exemple, dans les trembleurs ou dans d'autres types de pièces.
Le dessin, c'est une pratique aussi que tu utilises d'abord pour peut-être aborder certaines formes à tourner?
Ouais, c'est plus... pour matérialiser des idées, en fait, je fonctionne beaucoup avec des images. Donc j'ai tout un travail de recherche d'images sur Internet, dans des livres, à la médiathèque, etc., avant de les poser en dessin. Et par exemple, j'ai eu une commande où je devais reproduire une grosse truffe, donc un champignon, et j'ai fait un travail de recherche d'image, voir la texture, la forme, à quoi ça ressemblait, avant de la redessiner, et puis de faire des essais de texture avant de la créer. C'était une truffe de 20 cm, elle était assez grosse. Et puis quand j'ai des idées, quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup d'idées, parce qu'on faisait plein de choses, et de les poser dans un carnet de croquis, en fait, pour après les ressortir plus tard, ça permet de ne pas avoir besoin de 3 pages de texte pour se rappeler de l'idée. Et puis voilà, j'ai plein d'idées dans les cartons et peut-être un jour je pourrais en faire certaines. Mais en tout cas, au fur et à mesure du temps que j'ai de libre par rapport aux commandes et à la boutique, je fais des pièces un peu comme ça.
Et puis, est-ce que parfois tu utilises en quelque sorte un guide pour justement le trajet de la gouge sur cette pièce de bois ?
Un guide, non. On a des astuces en fait quand on fait de la reproduction, par exemple, pour aller faire des diamètres assez précis. Il y a toute l'étape où on va déligner le bois, le mettre sur le tour, le cylindrer, et après, par exemple, pour faire des moulures d'un pied de tas, par exemple, on a certains endroits où on va avoir des diamètres précis, donc on va les descendre au pied à coulisses pour être assez précis. On peut faire des pièces en tournage qui vont s'emboîter les unes dans les autres hyper précisément, au dixième de centimètre, voire plus, et donc on peut être assez précis, et généralement quand on va faire des courbes sur des pièces identiques, on va se baser sur les diamètres, et après à l'œil reproduire ces courbes-là. Il y a des tours à copier qui sont utilisés plutôt dans l'industrie où les gens font des grosses séries, mais nous les tourneurs on apprend à le faire à l'œil beaucoup. On exerce énormément l'œil sur les courbes, sur leur harmonie, sur la reproduction des courbes, sur ce côté-là. C'est vraiment un apprentissage qu'on pratique tous les jours et qu'on apprend à l'école aussi d'exercer l'œil.
Tu proposes donc aussi d'accueillir des stagiaires ou des gens qui ont envie de se perfectionner ou de s'initier. Comment ça se déroule dans ces moments-là?
Alors, il y a un aspect démo, donc j'accueille des groupes de maximum 10 personnes. Je suis beaucoup avec l'Office du Tourisme, où du coup, c'est des gens qui viennent, on vient apprendre, on échange sur le tournage, je leur fais une démonstration. Ça, c'est beaucoup l'été, je fais ce genre de choses. Les stagiaires, je les prends toute l'année, par contre, et du coup, c'est à la journée. Ça peut être possible de prendre sur plusieurs jours. C'est à la carte, donc si c'est quelqu'un qui a jamais tourné, donc on va faire une première journée d'initiation. Et après, on va avancer vers là où veut aller le stagiaire. Si quelqu'un qui a déjà pratiqué, c'est à la carte. Et alors, ça se pratique. Je ne prends pas de stagiaire le mercredi et le samedi parce qu'il y a le marché, il y a beaucoup de passages. Mais tous les autres jours de la semaine, toute l'année, je prends des stagiaires en fonction de mes disponibilités. Et c'est 6 heures de formation sur une journée. Donc, c'est 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. On est à 30€ de l'heure, donc c'est des journées à 180€, qui est le barème de tous les formateurs de tournage du coin, de France généralement. Et puis voilà, c'est venir me rencontrer à la boutique, échanger sur les envies et puis sur les faisabilités. Et là, en septembre par exemple, j'ai une dizaine de journées de stage sur le mois. Donc en fonction des périodes, ça peut être une bonne partie de mon activité. Et la transmission, c'est un truc que je pratiquais beaucoup en cirque. J'ai enseigné beaucoup la jonglerie, le cirque. Et de pouvoir enseigner le tournage, maintenant, c'est un aspect important. Là, je suis en train de me former à l'école où j'étais formé pour enseigner là-bas. Et c'est quelque chose que j'adore faire, en fait, transmettre. Quelque chose que je pratique au quotidien. Donc, on apprend aussi en transmettant, et voilà.
Eh bien, Romain, Hugo, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton atelier L'Armelier. Mmh. Et est-ce que tu as une page sur Internet ?
Ouais. Pour l'instant, je communique principalement sur Instagram. Donc, c'est romain.h.création. Sinon, vous trouvez les liens en tapant tournage sur bois, dit, etc. sur Google. Mais oui, je communique les pièces intéressantes, les pièces de création, la production, le quotidien de l'atelier. Pour l'instant, c'est surtout regroupé sur ce compte Instagram. Donc, voilà. Et sinon, venir me voir à la boutique, il y a toujours des nouveautés à voir.
D'ailleurs, la boutique ouvre quand ?
Elle est ouverte pendant les périodes non touristiques, c'est les jours d'école, les horaires scolaires et puis les jours de marché, les matinées de marché. Et puis quand c'est les vacances ou quand c'est les périodes comme ici, là, je vais être ouvert tous les jours jusqu'au 25. Voilà, c'est un peu variable. C'est avant tout un atelier avant d'être une boutique. Donc c'est les horaires d'atelier et puis les périodes touristiques ou de Noël, par exemple, j'ouvre plus pour avoir plus d'accessibilité à la boutique. Voilà.
Merci et bonne soirée.
Merci à toi. We'll be right back.
their first name?
For the breathing waves.
Yeah, forget all your headaches.
Too much time spending your money. That's your problem.